L'émission que vous allez écouter est une rediffusion.
Top ! Site d'information français lancé en 2008. Je suis spécialisé dans les enquêtes journalistiques. J'ai révélé plusieurs affaires comme celle du financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy par la Libye de Kadhafi. Ou encore l'affaire Cahuzac, ex-ministre français du budget, déchu après avoir menti à propos de son compte bancaire secret détenu à l'étranger. Je suis un média indépendant, sans publicité, qui refuse toute aide publique. Je vis grâce aux abonnements payants de mes lecteurs et je suis néanmoins rentable. Je suis... Mediapart.
Je crois qu'il y a un enjeu énorme dans l'établissement de vérité incontestable. Sans vérité incontestable, il n'y a pas de débat public.
Salut, c'est Steven Jambeau, vous écoutez l'Atelier des médias. Pendant 20 minutes à la radio, et quasiment une heure si vous faites le choix de nous écouter en podcast, je reçois celui qui vient de passer la main après 16 ans à la présidence de Mediapart qu'il a cofondé, Edoui Plenel. Edoui Plenel a travaillé au journal Le Monde de 1980 à 2005. Il en était d'ailleurs le directeur de la rédaction entre 1995 et 2004. Jeudi 14 mars 2024, Karine Foutot a pris la suite d'Edoui Plenel à la présidence de Mediapart. Peu avant cela, mardi 12 mars, j'ai reçu Edoui Plenel pendant une heure ici en studio à RFI pour revenir sur l'aventure Mediapart et l'idée que celui qui en a été sa tête de gondole se fait de l'information avec un grand I. Bonjour Edoui Plenel.
Bonjour.
Passez-vous la main avec le sentiment du devoir accompli ?
Oui, un mélange de joie et de fierté. Vous savez, conquérir le défi initial de Mediapart, dont on reparlera, c'est évidemment difficile. Durer, c'est aussi difficile. Mais transmettre, c'est probablement le défi le plus délicat. Dans toutes sortes de structures et notamment dans le monde politique, et celles et ceux qui nous écoutent sur tous les continents le savent, beaucoup de gens qui ont mon âge et 71 ans s'accrochent au pouvoir. C'est pas seulement une question d'âge, il y a des jeunes qui sont très vieux dans leur tête et des vieux qui peuvent être très jeunes dans leur tête, mais c'est surtout une question de boucher l'avenir. Pour moi, il était essentiel de réussir une transmission en bon ordre, un passage de relais, un passage de témoin, pour ne pas créer une situation où, au fond, on entrave. Et en entravant, c'est comme si on détruisait ce que nous avons construit. Comme si on se disait, ben, Mediapart est une réussite, mais il n'y aura pas de Mediapart après Plenel. Eh ben non, il y a un Mediapart plus que jamais. C'est le thème de notre campagne actuelle.
Un peu de soulagement aussi, parce que diriger une organisation, eh bien, ça peut être usant.
Soulagement, je vais continuer à être à Mediapart, je vais continuer à intervenir, soit par mes articles, soit par des vidéos. Non, ce n'est pas un soulagement comme si c'était un poids trop lourd. C'est plutôt cette idée que désormais, peut-être que l'équipe ne sera peut-être pas encombrée par tout ce que parfois j'attirais. J'ai quelques années de journalisme avant Mediapart. Je me suis fait pas mal d'ennemis en proportion de mon indépendance. Et du coup, il est très difficile de contester Mediapart, il est très difficile de contester ses révélations, ses informations. Celles et ceux qui nous attaquent, quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. On brandit toutes sortes de légendes, de calomnies, de polémiques superficielles autour de ma personne. Donc je crois que le soulagement, il est peut-être pour l'équipe. L'équipe va peut-être être plus légère. Elle n'aura pas le poids de la moustache.
Et vous, on va tout de même continuer à vous voir et vous allez rester un des ambassadeurs de Mediapart comme vous l'avez été, parce que voilà, Mediapart c'est Plenel et Plenel c'est Mediapart.
Les ambassadeurs et ambassadrices, c'est d'abord celles et ceux qui font Mediapart. Ils ont entre 25 et 50 ans et c'est elles et eux que vous allez voir et c'est eux qu'il faut solliciter. Non, moi je pense que ma présence sera d'abord éditoriale. Je l'ai montré encore ces derniers temps en écrivant plus souvent que d'habitude dans le contexte de la guerre à Gaza, dans le contexte de l'Ukraine, dans le contexte du vote de la loi immigration, de tous les défis qui aujourd'hui nous menacent, les ombres rôdent. Et là, j'ai un rôle à jouer par mon expérience, parce que je peux expliquer. Et puis aussi, c'est la proposition de l'équipe. À partir de l'automne prochain, j'aurai une émission vidéo avec deux rendez-vous par mois à l'image, pour prendre deux exemples qui sont en accès libre, qu'on peut facilement consulter sur YouTube, de l'entretien que j'ai fait avec Elias Sambar sur la Palestine, et également de l'entretien que j'ai fait avec Abderrahman Sissako, le réalisateur mauritanien, récemment à propos de Black Tea. Ces deux exemples que je cite volontiers pour montrer que dans les rendez-vous que je vais faire, il y aura ce souci du monde, cette curiosité pour le monde. J'aime dire que Mediapart est un journal étant numérique sans papier ni frontières. Je suis moi-même, dans mon itinéraire personnel, marqué par l'histoire du monde, et notamment du monde hors de l'Europe. J'ai grandi dans les Caraïbes, le pays d'Aimé Césaire, le pays de Frantz Fanon, le pays d'Édouard Glissant à la Martinique. Et ensuite, j'ai passé ma jeunesse en Algérie après l'indépendance. Et donc, ces questions post-coloniales, ces questions de ne pas s'enfermer dans ce monde européen qui oublie le monde, et Dieu sait si c'est la question qui nous est posée avec le droit international, avec le piège d'un double standard, de s'en émouvoir à propos de l'Ukraine, mais de ne rien faire à propos de la Palestine et de Gaza face à la guerre d'Israël. Alors qu'il faut tenir les deux bouts, il y a une guerre impérialiste d'invasion russe que nous avons largement documentée sur Mediapart. Mais si l'on combat Poutine, eh ben on doit combattre aussi Netanyahou. Et donc c'est ce que je vais, par ma présence éditoriale dans les colonnes numériques de Mediapart, illustrer.
Edoui Plenel, depuis le début de cet entretien, vous avez utilisé à plusieurs reprises le terme de journal, et c'est de journal en ligne. Depuis le premier trimestre 2008, la date du lancement de Mediapart, vous utilisez toujours ce terme. Pourquoi l'avoir adopté et pourquoi ne cesser de le défendre ?
Alors c'est vraiment, je suis content de votre question, parce que c'est vraiment un mot qui résume notre bataille initiale. Tout le monde l'a oublié quand on s'est lancé avec ce modèle économique totalement inédit, on y reviendra, de l'abonnement. Les sites de la presse, qui étaient des sites gratuits, financés, et en fait pas du tout financés, pas du tout rentables, étaient comme des blogs. Alors que la presse sait faire des unes, avec une hiérarchie, avec une manchette, avec un titre plus gros que l'autre, et ainsi de suite, ils empilaient les articles. Il n'y avait pas de sens à tout cela. Et donc, nous, on a voulu, en effet, faire un journal. C'est-à-dire, un journal, c'est non seulement des informations, mais je vous propose une hiérarchie, je vous propose un sens. Un journal de RFI, il y a un premier titre, un deuxième titre, eh bien c'est pareil pour la une d'un journal numérique.
Tout n'est pas au même niveau.
N'est pas au même niveau. Donc premièrement, il y avait cette idée de comment on traite l'information. Et puis deuxièmement, il y avait cette idée qu'un journal, il se qualifie par son contenu, pas par son support. Il n'est pas lié au support papier, c'est l'existence même de son contenu qui définit ce journal. Et donc, notre première bataille a été, et elle a été pionnière puisqu'elle a été gagnée, c'était de faire reconnaître qu'il y a une presse en ligne qui a les mêmes droits et les mêmes devoirs qu'une presse imprimée. Au moment où Mediapart se lance en 2008, en France, dans la législation française, presse voulait dire presse imprimée. Et donc, nous avons montré que non. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aussi ? Ça veut dire que nous avons inscrit une différence par rapport à un univers qui, hélas, a gangréné l'espace numérique depuis, qui est celui de la presse, justement. La presse, c'est produire des informations, c'est produire des vérités de fait, c'est produire une connaissance du réel. Ce n'est pas diffuser une opinion. On a tous des opinions. Et les journaux ont des sensibilités plus ou moins diverses. Mais le critère pour juger d'un média, c'est est-ce qu'il m'est utile par ses informations ? Et vous voyez bien quel est le début de notre bataille. C'est qu'autour de nous, aujourd'hui, on a de prétendus médias qui ne sont que des médias d'opinion.
L'opinion de commentaires.
De commentaires, de blablabla. On s'autorise de soi-même, et y compris des opinions les pires, les plus dangereuses. Et là, j'y insiste, parce que ça, ce n'est pas le propre du journalisme. L'opinion appartient à tout le monde. Et donc là, il y a une tromperie sur la marchandise. Ce n'est pas un travail de journaliste de simplement exprimer son opinion. Faire notre travail, c'est d'abord, par l'enquête, par le reportage, par l'investigation, par le puzzle où on accumule toutes sortes de connaissances qui permettent de faire un paysage, eh bien c'est, je le redis, comme une université populaire, apporter des connaissances.
Mediapart, pour le grand public maintenant en France, c'est l'investigation.
Oui, c'est l'ADN de Mediapart. J'avais pratiqué ça comme journaliste de base moi-même au Monde, puis je l'avais initié quand j'ai dirigé la rédaction du Monde. Mais là, on pourrait dire qu'on en a fait le dénominateur commun de toute l'équipe dans tous les secteurs.
Alors, on peut citer quelques-unes des affaires. Et rien qu'en donnant les noms, les auditeurs de RFI vont ça va résonner, on va dire, dans leur mémoire, dans leur souvenir. Affaire Bettencourt, l'affaire du financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy par la Libye de Kadhafi. L'affaire Cahuzac, l'affaire Takieddine, Karachi, l'affaire Benalla. De nombreuses révélations sur le mouvement MeToo, des témoignages sur Patrick Poivre d'Arvor, Gérard Depardieu ou encore plus récemment Gérard Miller. Laquelle de ces affaires retiendrez-vous et pourquoi ?
Ah, pour moi, la mère des batailles, j'allais dire, c'est l'affaire Sarkozy-Kadhafi, qui va d'ailleurs donner lieu à un procès très long de 4 à 5 mois en 2025. D'abord parce que c'est une affaire qui n'existerait pas sans Mediapart. C'est Mediapart qui l'a apporté par ses révélations initiales en 2011, alors qu'il y avait justement la crise en Libye et avant même que Kadhafi soit tué. Enfin, tout ça est une histoire vraiment profondément politiquement crapuleuse, immense. Et Mediapart a joué son rôle, pas seulement pour la France, j'espère, j'allais le dire de manière prétentieuse, pour l'humanité. Et ça va donner lieu à un grand procès l'année prochaine.
Edouard Plenel, ancien président de Mediapart.fr, site d'information français, ouvrons une séquence de questions courtes, réponses courtes. Y a-t-il quelque chose, Edouard Plenel, que vous souhaiteriez dire aux dirigeants d'entreprises de presse qui font encore du papier ? Que vous avez un temps appelé vieille presse.
J'aimerais d'abord leur dire, car ils sont tous des actionnaires industriels extérieurs au métier de l'information, qu'ils s'engagent à respecter l'indépendance des rédactions. Nous, nous sommes indépendants et nos statuts font que c'est un ou une journaliste qui est à notre tête. Mediapart est indépendant. Aujourd'hui, ce qui pèse sur l'ensemble des médias privés en France, c'est l'intervention du propriétaire. Les propriétaires ne doivent pas se mêler du contenu de ces journaux, car ils ont des intérêts extérieurs au bien public et à l'intérêt général.
Edouard Plenel, vous avez souvent été très dur avec le journal Le Monde. Le Monde est-il pour vous un média exemplaire à l'heure actuelle ?
Aucun média n'est exemplaire, Mediapart est soumis aussi à la critique. Ai-je été très dur avec Le Monde ? Non, j'ai repris ma liberté en disant que Le Monde allait être vendu. C'est ce qui s'est passé et j'ai construit Mediapart en tirant les leçons de cet échec, de cette bataille perdue. Il y a des journalistes excellents au Monde. Le problème du Monde, encore une fois, c'est cette question de l'indépendance. Parce que vos fins de mois sont assurées par un milliardaire, par des aides publiques, voire par des financements privés des plateformes, vous êtes dans une situation où vous oubliez d'avoir faim, où vous oubliez d'aller vous-même chercher le lecteur, d'aller vous-même vous battre. La culture Mediapart, c'est que tout le monde à Mediapart se dit « c'est nous qui faisons le succès de ce journal ». Personne ne le fera à notre place, personne ne viendra assurer nos fins de mois à notre place. Et ça, c'est gage de confiance auprès du public. Et donc, j'invite toutes les rédactions, dont celle du Monde, à retrouver ce dynamisme-là face à leurs actionnaires.
Edouard Plenel, quelle est la qualité que vous appréciez le plus chez un journaliste ?
Deux mots, la curiosité, évidemment. La curiosité n'est pas un vilain défaut, il n'y a jamais de mauvaises questions, il n'y a que de mauvaises réponses, mais j'y ajouterais une curiosité généreuse. Pour moi, la bonne curiosité, c'est celle qui est curieuse de l'autre, curieuse du monde, curieuse de ce qui ne me ressemble pas, curieuse de ce qui va me surprendre, m'étonner, m'obliger à penser contre moi-même. Donc curiosité, générosité.
Fin de cette séquence. Question assez courte, réponse pas très courte.
Non, hélas, je suis désolé. Mais vos questions étaient fines, et donc elles appellent d'immenses. Voilà.
Edouard Plenel, pour terminer, j'aimerais que l'on s'intéresse aux efforts éditoriaux que Mediapart veut faire en 2024. Il y a des thèmes sur lesquels vous souhaitez notamment travailler, c'est l'extrême droite et l'écologie.
Oui, bah, l'équipe a annoncé ça. Donc, il y a chez nous ce qu'on appelle, c'est un peu prétentieux, c'est comme un plan quinquennal, un plan stratégique. Ça concerne aussi bien le CMS, la construction du système informatique et le développement de tout ce qu'il y a derrière, hein, l'apparence du site, et puis le contenu éditorial. La question de l'extrême droite, elle est devant nous. Elle est déjà là et nous sonnons le tocsin depuis longtemps. L'extrême droite, quel que soit son visage, c'est l'adversaire de l'égalité naturelle. Elle a toutes sortes de visages et, hélas, sous toute latitude. C'est les gens qui pensent qu'il y a des civilisations supérieures à d'autres, des origines supérieures à d'autres, des croyances, des apparences, des sexes, des genres. Nous sommes du côté de cette espérance démocratique qui un jour a dit « Nous naissons libres et égaux en droit, sans distinction d'origine, de condition et ainsi de suite, d'apparence, de sexe, de genre, de croyance. » Ça, c'est la promesse qui nous a permis de conquérir des droits démocratiques, des droits sociaux, des droits des femmes, des droits des peuples opprimés, de combattre l'esclavage, de combattre toutes les logiques de domination. Et c'est une promesse infinie, y compris par rapport aux droits du vivant aujourd'hui, par rapport à la démesure de notre espèce sur le vivant. Et donc, cet enjeu vital de combattre ces idéologies qui peuvent nous entraîner dans une guerre de tous contre tous, c'est essentiel aujourd'hui. Et ça ne concerne pas que la France, même si le système politique français, par ce système présidentiel où la volonté d'un seul peut s'imposer au pouvoir de tous, nous met en grand péril. Hein. Une élection présidentielle, quelqu'un qui est minoritaire au premier tour peut se retrouver à avoir tous les lieux de pouvoir au second tour, ce qui est le cas de l'actuel président.
Et puis il y a l'écologie. Alors Mediapart, au même titre que RFI, est signataire de la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, dont je suis d'ailleurs un des co-rédacteurs. Pourquoi l'écologie fondamentale pour vous? Et puis parlez-nous aussi peut-être de la publication à venir d'un bilan des émissions carbone de Mediapart.
La question de la Terre, elle va nous survivre. Et le système, jusqu'à ce qu'il explose dans quelques milliards d'années, va nous survivre. Le problème, c'est ce que nous faisons là. Et nous mettons en péril nous-mêmes par notre démesure. Pour moi, c'est cette question écologique, elle tient tous les bouts. Elle tient la question du pouvoir. On ne peut pas y répondre de manière verticale et autoritaire. Il faut écouter, il faut discuter, il faut s'entendre. Donc pour moi, cet engagement écologique de Mediapart est un engagement essentiel et qui rejoint évidemment le fait que, comme pour les violences sexistes et sexuelles, comme pour les questions de transparence, les conflits d'intérêts, les grilles des salaires, tout ce que... Bah, si on traite ces sujets, on s'y applique à nous-mêmes. Donc, évidemment, qu'on fait une enquête sur comment Mediapart contribue ou ne contribue pas, ou contribue trop aux dégradations de notre environnement et doit aussi se remettre en cause.
C'est sur cette image que l'on terminera. Merci Edoui Plenel.
Merci à vous.
Je rappelle que vous étiez président jusqu'à il y a quelques jours de Mediapart.fr. Merci d'être venu sur RFI à l'occasion de votre départ de la présidence de ce site d'information. Je précise à nos auditeurs risque une version longue de cet entretien est à l'écoute dans le podcast de l'Atelier des médias. À bientôt.
RFI.
Vous êtes bien sur RFI et vous avez raison. Avant de retrouver la suite de nos programmes, je vous propose d'écouter un titre issu de la playlist de la Radio Mondiale. Elle a été pressentie pour chanter à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris cette année. Elle a 28 ans, c'est une artiste franco-malienne. Son dernier single a pour titre Hypé. Vous voyez, je l'espère, de qui je veux parler. L'extraordinaire Aya Nakamura.
Je crois que je ne t'aime plus. Je vais changer de vie, de numéro. Ce que je devais voir, bah je l'ai vu. J'ai comme retrouvé la vue. Je demande ce qui me chie. Tu me dis que je fais le signe. C'est là qu'entre nous t'as déclaré la guerre. Telle une sirène, tous les bouts je racolais. Il a la digue facile, je suis une hit machine. Pas une fille facile, je me donne 10 sur 10. Hit machine, je suis une hit machine. Pas une fille facile, je me donne 10 sur 10. Je suis hyper, hyper. Hyper, hyper, hyper. Les dans l'over. T'as ça, yeah. Puis hyper, hyper, hyper. Puis il aimait trop les bêtises. Faisait trop de bêtises. Puis il aimait trop les bêtises. Faisait trop de bêtises. Moi je voulais nous deux, mais tu vis pour les caméras. Tout ce cinéma, c'était pour les caméras. Moi je voulais laver, laver, laver.
etc. Que dans toutes les bougies entendues.